Nous sommes heureux de pouvoir être ici, d'être au bénéfice de la présence de notre Seigneur. C'est cela qui peut changer une existence. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21. C'est un texte que nous connaissons. Nous commençons à lire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: « Ne crains pas, crois seulement. Amen. » Et si vous voulez savoir ce qu'il est arrivé de cette fille, de la fille de Jaïrus, je vous invite à lire la suite à votre domicile, à votre maison. Jésus est là, il y a une foule, il y a plusieurs personnages, et cet après-midi, nous allons nous arrêter quelques instants sur ce texte, sur ce passage, que peut-être vous connaissez déjà, que vous avez déjà lu, mais plaise à Dieu que cet après-midi, nous puissions le découvrir peut-être encore une fois ou d'une manière différente. Jésus avait fait déjà des miracles. Jésus était connu pour cela, parce qu'il y avait quelque chose de différent qu'on ne pouvait pas retrouver chez d'autres personnes. Il interpellait. Et de la même manière que l'a rappelé Nicolas tout à l'heure, lorsque hier nous avons fait ce repas et qu'il y avait des témoignages, Jésus ne doit pas être une personne, quelqu'un qui nous laisse indifférent. Que l'on l'accepte, qu'on accepte son message ou qu'on le rejette, il produit toujours un effet en nous, dans notre vie, dans notre cœur. Jésus est là parce qu'un homme l'a interpellé, lui a demandé de venir parce que sa fille est malade, on l'a lu. On ne va pas trop s'arrêter sur ce personnage, sur Jaïrus. Toujours est-il qu'il n'a pas eu beaucoup besoin d'insister, cet homme. Il est allé voir Jésus en expliquant simplement: « Voilà, ma fille va mourir, viens. » Jésus l'a suivi. Jésus veut faire du bien. Cet après-midi, Jésus est là et on n'a pas besoin d'avoir un diplôme en théologie pour faire une prière que Jésus-Christ va pouvoir entendre et accepter. Ce qui est important, c'est notre cœur. Alors que Jésus part, alors qu'il avait l'habitude, c'est pour ça qu'il est venu, en partie, pas que pour ça, mais en partie c'est pour ça. Il est venu, il avait cette habitude de voir des personnes l'entourer, Il était habitué à ce qu'il y avait une foule qui le suivait, il était habitué à faire du bien, il était habitué à tout cela. Malgré tout, cette fois-ci, ça va être différent. Malgré tout, dans la foule, à ce moment présent, ça va être différent pour une femme, pour une personne. Et vous voyez, on peut prendre l'habitude de se retrouver à l'église le dimanche après-midi. On peut être habitué à entendre une prédication, à entendre des chants, mais plaise à Dieu quand même, parce que c'est sa volonté, que malgré cette certaine habitude qu'il y a, qu'il règne dans notre vie, parce qu'on est guidé, dirigé par une manière d'être qui s'approche plus de la religion que d'un état de cœur et d'esprit, ça peut être différent pour quelqu'un cet après-midi. Il peut y avoir quelque chose qui se passe et qui se produit. C'est ce que cette femme a compris et c'est ce que nous voulons partager ensemble pour que quelqu'un puisse expérimenter cela. Parce que ce que Jésus a fait ce jour-là pour cette femme, il peut le faire encore aujourd'hui. On le croit et c'est pour cela qu'on aime parler, prêcher, annoncer cette bonne nouvelle. Au travers de cette femme, nous allons voir quelques étapes qui sembleraient sont importantes dans une vie, pour que nous puissions rencontrer et connaître Jésus-Christ. Cette femme, on l'a lu, sa vie, c'était compliqué, très compliqué. Aujourd'hui, on dirait, c'est une femme qui, depuis 2003, est malade. Depuis 2003, elle est, excusez-moi l'expression, dans la galère. Depuis 2003, il n'y a que souffrance, douleur. Les personnes qui ont été malades et qui ont eu une grave maladie savent ce que c'est que d'aller dans un endroit à un autre, dans un hôpital à un autre, voir un spécialiste à un autre. C'est quelque chose d'incessant, c'est quelque chose qui est épuisant, tant physiquement que moralement. Cette femme, depuis 2003, n'avait connu que cela dans sa vie. Peut-être qu'elle se disait... Fin 2003, ça va aller mieux. Vous savez, à la fin d'année, on espère toujours beaucoup de choses. On se dit, allez, cette année est finie, elle était difficile, peut-être l'année prochaine, ça va aller mieux. 2004, la même chose. Peut-être qu'elle se disait, la fin de cette année, ça a été encore difficile, mais l'année prochaine, ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller jusqu'à 2015. Mais on pourrait multiplier... Fin 2004, fin 2005, fin 2006, et toute une vie, on peut passer comme ça en se disant, mais peut-être que ça va aller, peut-être qu'il va y avoir une amélioration. Rien ne se passe, rien n'évolue comme on le souhaite, comme on le voudrait. Tout est fini, tout semble noir, pas d'horizon. C'était ça le quotidien de cette femme. Et ça aurait pu être ça pour encore... pas mal de temps dans sa vie. Et pas seulement ça, et on va voir ce que Jésus a voulu montrer, pointer chez cette femme. Il y a un texte dans la parole de Dieu, on pourrait le lire ensemble, ce qui pourrait résumer en quelques versets la vie de cette femme. C'est dans le psaume 88, on va lire, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, je ne sais pas si vous êtes habitués à lire les psaumes, mais nous y voyons des prières d'hommes, et on pourrait dire de femmes, des prières qui ont été là et qui retranscrivent, qui sont une photographie d'un cœur, d'une âme, d'une personne, qui sont des prières tellement vraies, tellement véritables, tellement concrètes pour nous. Et je pense que, même si on sait que c'est un cantique des fils de Corée, On pourrait dire cet après-midi que cette femme aurait pu écrire ces quelques versets. Le verset 4 du psaume 88 nous dit « Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme, on pourrait dire je suis comme une femme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts. » semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Et on y reviendra sur la fin de ce verset 6. C'est là la photographie de cette femme. C'est là l'image, la radio de son âme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être ainsi encore pour pas mal de temps. Mais cette femme va saisir quelques principes spirituels tellement importants. La Bible nous dit que, et je résume, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint. » ayant entendu parler, il y a eu une action, il s'est passé quelque chose dans son cœur, dans son âme. On connaît tous ce texte, et si vous ne le connaissez pas, je vous le cite cet après-midi pour vous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour cette femme, elle a entendu Jésus-Christ, elle a entendu ce que Jésus était capable de faire. Peut-être que toute sa vie ou de nombreuses années, elle avait entendu que des choses négatives. Elle avait entendu que des choses qui étaient là, qui meurtrissaient sa vie, son âme. Peut-être que toute sa vie, c'était que des choses qui étaient là, et ce qu'elle pouvait se repasser en boucle dans sa vie, c'était que des choses qui la tiraient vers le bas. Mais cette fois-ci, ça a été différent. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle n'est pas restée lointaine à cela, à cette réalité. Elle n'est pas restée derrière la porte de l'église. Elle n'est pas restée lointaine à cela. Elle s'est dit, mais c'est peut-être le moment pour moi de faire ce pas de foi. C'est peut-être le moment pour moi d'expérimenter ce que j'ai entendu chez tous les autres. Ce que j'ai entendu dans la vie de Lucas, de Ketsia, d'Olivier, de Nicolas et tellement parmi nous cet après-midi. Jésus-Christ, ce qui a été capable de faire dans notre vie, c'est ce qu'il veut faire dans votre vie cet après-midi. Qui, on pourrait dire, ne levez pas la main, mais qui a été délivré, qui a été guéri cet après-midi, qui a été arraché des ténèbres, qui a été arraché à l'oppression du diable, qui a été sorti de derrière des choses tellement immondes et infâmes pour être restauré, pour être rempli de joie, de bonheur cet après-midi. On pourrait être quelques-uns, je pense, à lever la main. Et cette femme qui était là, toujours, qui espérait sans cesse se dire, mais peut-être que ça va aller mieux, cette fois-ci, elle s'est dit, mais Jésus est là. Ce que j'ai entendu, je veux le voir en œuvre, en pratique, dans ma vie, dans mon existence. Peu importe ce que j'ai pu entendre de négatif, je veux passer à autre chose. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous souhaitez vivre autre chose dans votre vie, si vous souhaitez être délivré du péché, si vous souhaitez avoir et connaître ce que c'est que la vie et la vie en abondance, je pense que vous êtes au bon endroit cet après-midi pour pouvoir rencontrer, voir ce que Jésus-Christ veut faire dans votre vie. La deuxième chose que la Bible nous dit au sujet de cette femme, c'est qu'elle toucha son vêtement. Et c'est là la conclusion de sa foi. On va voir, et on a lu, cette prière, ce qu'elle se dit, l'état de son cœur, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement matérialiser, mettre en pratique ce que j'ai entendu, alors je serai guéri. Si je puis seulement faire une prière à Jésus-Christ cet après-midi, lui demandant de me pardonner pour mes péchés, je serai pardonné. Si je puis seulement faire une prière cet après-midi à Jésus-Christ pour lui demander de me sortir du pétrin dans lequel je suis, de me sortir dans les choses où je suis, mais Jésus va le faire. Mais combien de personnes, et on y reviendra cet après-midi, il y avait une foule ce jour-là. Et je ne sais pas, quand on lit foule, ce que ça représente. Moi, quand je lis foule, pour moi, c'est plus que 2-3 personnes. Je pense qu'on est à peu près d'accord. C'est plus que 10 personnes, c'est une foule. C'est beaucoup de monde. Et combien de personnes ce jour-là ont entendu parler Jésus-Christ, ont vu cela? Beaucoup. Et pourtant, il n'y a qu'une personne qui est repartie sauvée. Il n'y a qu'une personne qui a expérimenté cela. Et nous vous invitons, je vous invite à ne pas faire partie de cette foule qui regarde, mais qui regarde toujours de loin ce que Jésus-Christ peut faire. À ne pas faire partie de ces gens qui regardent et qui disent « Oh, mais cette femme, elle exagère quand même, ça se fait pas. » Et c'est vrai que pour l'époque, ça, elle n'avait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas le droit. Mais Jésus ne lui a pas dit « Écoute, tu n'as pas le droit. » Jésus l'attendait, cette personne. Jésus était venu là pour elle. Jésus savait et il sait ce dont on a besoin, mais il attend, il désire plus que nous. Il désire qu'on puisse venir dans sa présence, il désire qu'on puisse se dire « mais je veux toucher Jésus-Christ, je veux apprendre à le connaître, je veux expérimenter sa puissance, sa parole, parce que dans ma vie j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé tellement de médecins, j'ai essayé tellement de religions, j'ai essayé tellement de courants philosophiques ou autres, ça n'a rien donné, je vais toujours en empirant. On n'est pas en train de vous parler de religion, on n'est pas en train de dire que ici c'est mieux qu'ailleurs, non, on est en train de dire que c'est Jésus qui guérit, que c'est Jésus qui sauve, que c'est Jésus qui peut faire la différence dans une vie. Cette femme qui a pu dire, alors bien sûr, c'est pas écrit, mais vous l'aurez compris lorsqu'on a lu le psaume 88. Cette femme qui aurait pu dire, mon âme est rassasiée de maux. Je m'approche du séjour des morts. Je descends dans la fosse. Je suis étendu parmi les morts. Cette femme va être guérie. Amen. Cette femme va être guérie. Mais c'était pas la finalité, le but de Jésus-Christ. Ça aurait pu s'arrêter là, remarquez. Elle aurait pu être guérie, partir en courant, quand Jésus-Christ s'est retourné. Elle aurait pu se dire, oulala, je suis en danger, et elle aurait pu vraiment s'en aller. Peut-être qu'on n'en aurait jamais plus entendu parler, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on sait qu'elle est sauvée, mais voilà. Ça aurait pu se passer comme ça. Mais vous savez, lorsque nous, on veut s'approcher de Jésus-Christ, il y a quand même cette réalité. Lorsque nous, on veut toucher son vêtement, on veut toucher sa parole, on est là cet après-midi, il y a cette réalité que Jésus, lui aussi, veut nous toucher. Que Jésus, lui aussi, veut nous parler. Et c'est ce qu'il a voulu faire pour cette femme. Parce qu'on est là et on lit le texte, on se dit, mais cette femme, c'est bien, elle est allée au-devant, elle a pris la victoire sur sa maladie, elle s'est dit, mais allez, je me fais violent, je vais faire ceci ou cela, mais quand même... Jésus, lui, voulait parler à cette femme. Et c'est ce qu'il veut faire encore cet après-midi. Jésus savait, vous savez, on lit ce texte, Jésus a aussitôt connu qu'une force était partie. Mais Jésus savait très bien que cette femme allait venir. Et lorsqu'il s'est arrêté, lorsqu'il a dit, mais qui m'a touché, qui a touché mes vêtements? Sincèrement, est-ce que vous croyez que Jésus a été surpris lorsqu'il a découvert cette femme? Mais il le savait, mais il a stoppé sa marche parce qu'il voulait que cette femme soit sauvée. Il stoppe sa marche parce qu'il désire qu'on soit sauvé, parce qu'il désire qu'on puisse parler avec lui, parce qu'il désire plus que nous qu'on puisse expérimenter sa paix, sa joie, le bonheur, l'espérance. C'est cela la réalité. Cette femme a touché le bord de son vêtement, mais Jésus a touché le cœur de cette femme. Cette femme a été guérie de sa maladie, mais Jésus l'a guérie du péché, l'a arrachée des griffes de l'ennemi. Parce que si cette femme était partie en courant, effectivement, elle aurait pu aller jusqu'avant la fin de ce verset 6 du psaume 88. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Effectivement, elle aurait pu être sortie du séjour des morts. Effectivement, elle aurait pu expérimenter la guérison, mais elle n'aurait pas pu terminer en disant « Mais je ne suis plus séparé de ta main. » Et c'est cela l'important. C'est cela que Jésus-Christ voulait lui montrer, lui dire. C'est que quand bien même elle était guérie, elle était toujours séparée de Dieu. Elle était toujours loin de Dieu. Elle était toujours pécheresse, pécheur, devant Dieu, et c'est cela que Jésus veut faire, au-delà d'une guérison. Merci Seigneur pour les guérisons. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sauvé, c'est qu'on puisse expérimenter la nouvelle naissance au travers de notre repentance. Cette femme, peut-être l'erreur qu'elle a faite, c'est d'être centrée uniquement sur sa maladie, d'être centrée uniquement sur elle, d'être obsédée, excusez-moi l'expression, sur sa maladie. Il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux, il faut que demain j'ai moins mal, il faut qu'il y ait une amélioration. Et alors que peut-être ça peut arriver, je ne suis pas en train de dire qu'on ne prête pas attention à la souffrance. C'est normal lorsqu'on souffre de souhaiter aller mieux, c'est évident. Lorsqu'on est malade, on espère guérir, bien sûr. Mais devant Dieu... Peut-être que le fait qu'elle soit centrée sur sa maladie, ça lui a peut-être caché cette réalité. Ça lui a peut-être obscurci l'intelligence pour qu'elle puisse saisir qu'au-delà de son corps à s'occuper, au-delà de ce qui l'a fait souffrir, il y avait son âme. Il y avait l'éternité pour elle qui était en jeu. Lorsqu'on est centré, vous savez, lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, et je pense que quelquefois le diable pas se frotte les mains, mais regarde, et lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, on n'est plus occupé à autre chose. Et Jésus-Christ s'est arrêté, a pris le temps de s'arrêter, parce qu'il voulait que cette femme soit sauvée. Il y a ce verset, on le connaît bien, « Nul ne peut servir de maître ». Et je pense que cette femme a expérimenté cela. On ne peut pas se servir soi-même, on ne peut pas vouloir seulement des choses pour notre vie ici-bas sans faire attention à notre éternité. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce texte, alors que je pense, comme la plupart d'entre vous, nous le lisons, et peut-être pour des dizaines et des dizaines de fois, mais que c'est que cette femme, lorsque Jésus-Christ va regarder, lorsqu'elle va se retrouver confrontée à Jésus-Christ, la Bible nous dit que cette femme va être effrayée et tremblante. Effrayée et tremblante. C'est une chose, vous savez, d'être confrontée à Jésus-Christ pour la guérison. De voir Jésus-Christ uniquement pour notre médecin divin. On aime et c'est bien. Et on priera tout à l'heure pour les malades. Et on le sait parce que la Bible nous le dit, qu'on peut être guéri dans le nom de Jésus. Et être confronté à Jésus-Christ, venir vers Jésus-Christ pour la guérison, c'est bien. Mais vous comprenez que lorsqu'on vient et on est confronté à Jésus-Christ, plus seulement en tant que médecin divin, mais en tant que fils de Dieu, c'est différent. Et cette femme a expérimenté cela, effrayée. Et je pense que, alors peut-être ça va vous choquer cet après-midi que je puisse dire cela, mais je pense qu'on a besoin quelquefois d'être effrayé de notre péché devant Dieu, de nous retrouver tout tremblants devant la croix de Jésus-Christ. On a besoin de voir cela, d'expérimenter cela, d'être saisi d'effroi lorsqu'on considère que le Fils de Dieu, que Dieu lui-même s'est dépouillé pour venir marcher dans ce monde, pour venir vivre en tant qu'homme, pour venir marcher dans ce monde, pour faire du bien, pour faire des miracles. Mais ce n'était pas son but seulement. Le but de Jésus-Christ, c'était la croix, c'est la croix. Le but de Jésus-Christ cet après-midi, ce n'est pas seulement qu'on expérimente Jésus pour être apaisé au niveau de notre corps, de notre morale, de ceci, cela. Parce que c'est sûr qu'on a du mal à être effrayé lorsqu'on va voir un médecin pour lui dire « voilà, j'ai besoin d'être guéri ». Le médecin nous donne des médicaments, ça va. Mais on a besoin d'être effrayé, on a besoin de comprendre qu'on est pécheur, on a besoin de saisir que c'est Dieu qui va juger les hommes. Que devant Dieu, on est tous pécheurs, que devant Dieu, c'est ce que la fin du verset 6 de ce psaume 88 nous dit, on est tous séparés de la main de Dieu. On est tous loin de Dieu. Et cette femme était loin, cette femme a saisi dans son cœur, lorsque Jésus-Christ a pris le temps de s'arrêter, de lui dire « mais qui m'a touché ? Qui a besoin de bénédiction ? Mais pas seulement, qui a besoin d'être sauvé ? Est-ce que quelqu'un cet après-midi, face à cette parole de Jésus-Christ, va pouvoir être effrayé, tremblant devant l'œuvre de la croix en disant « mais Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être sauvé ?» Et cette femme va l'expérimenter d'une manière simple, mais d'une manière qui montre qu'elle avait saisi, elle va se jeter aux pieds de Jésus-Christ, et la Bible nous dit qu'elle va dire toute la vérité. Beaucoup de personnes s'imaginent que devant Dieu, ils peuvent cacher une certaine partie de leur vie en se disant « mais ça, je le garde pour moi ». Depuis combien de temps n'as-tu pas dit toute la vérité à Dieu ? Depuis combien de temps n'es-tu pas retrouvé devant le Seigneur et n'as-tu pas osé lui raconter toute ta vie ? Si tu as peur de le faire devant des hommes, on peut le comprendre. Si tu as peur de venir voir un frère, quelqu'un dans l'église tout à l'heure et de pouvoir raconter ce qui s'est passé dans ta vie, on peut le comprendre. Mais tu as besoin de dire toute la vérité à Dieu. Tu as besoin de lui dire « voilà ma vie est en vrac ». Ma vie est en vrac au niveau de mon âme, au niveau spirituel, je suis dans le néant. Tu as besoin d'expérimenter cela. Et cette femme qui était là, prosterné devant Jésus-Christ qui va dire toute la vérité, va voir sa vie bouleversée, va voir son existence changer, non pas seulement parce qu'elle a été guérie, mais parce qu'elle a rencontré le roi des rois. Elle a rencontré celui qui est l'essence même de l'amour, qui désire que nous puissions expérimenter le salut, qui désire que nous puissions saisir que lorsqu'il a été crucifié sur le bois de la croix, c'était pour chacun d'entre nous cet après-midi, pour que devant la croix, nous puissions à notre tour, tremblants, nous prosterner en disant « Seigneur, viens me sauver ». On a besoin de retrouver cela. Cet après-midi, on a besoin de nous de peut-être de se placer devant Jésus-Christ d'une manière différente de toutes les autres fois. Disons la vérité à notre Dieu. Cet après-midi, peut-être c'est la première fois que vous venez, peut-être vous êtes habitué, peut-être on ne sait pas, peut-être vous avez été éduqué d'une manière religieuse. Qu'importe, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est maintenant. Bon, je vais bientôt conclure, la réunion va se terminer. Mais votre éternité, qu'est-ce qu'il en est ? Votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'elle en est ? Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous ressentez pas le besoin de dire toute la vérité à votre Dieu ? Je vais conclure. Vous savez, à un moment donné, dans la parole de Dieu, alors que Jésus est là, il a fait encore des miracles. Les personnes qui étaient là autour de lui, les pharisiens, ceci, cela, vont commencer à discuter. Et Jésus va dire, mais si ce que je fais, si c'est le doigt de Dieu qui opère cela, si c'est le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché. Si c'est par autre chose, qu'importe, vous pouvez passer votre chemin, n'y prêtez pas attention, ça ne va pas durer, c'est éphémère. Mais si c'est le doigt de Dieu, si c'est Jésus-Christ qui fait cela, si c'est Dieu lui-même et que vous n'y prêtez pas attention, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire ? Qu'en est-il de votre responsabilité face à cela ? Jésus-Christ n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour cette femme, il veut le faire cet après-midi. Il veut délivrer, il veut guérir quelqu'un, il veut sauver une personne. Ne passez pas à côté. Ne soyez pas comme cette foule qui va partir, qui a dû partir après, en passant à côté du doigt de Dieu qui est venu et qui vient pour sauver tous les hommes. Jaïrus, on n'a pas lu toute son histoire, mais cet homme qui était là, qui attendait, je ne sais pas comment il a dû vivre ces événements, il devait se dire, c'est bien pour cette femme, mais il y a ma fille qui attend. Et des personnes vont venir qui avaient vraiment envie de lui remonter le moral, qui était rempli d'amour et d'affection, vont lui dire « Mais ta fille est morte, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. » Et vous savez, la délicatesse de notre Dieu, cet amour qui est là toujours dans les paroles de Jésus-Christ, cet amour qui veut bouleverser, qui sait comment nous parler, sans tenir compte de ces paroles. Vous savez, les paroles de mort, il y en a, mais ce n'est pas Dieu qui les donne. Des paroles qui viennent pour vous amoindrir, des paroles qui viennent pour vous rabaisser, il y en a, mais ce n'est pas Dieu qui les donne. Et Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Peut-être que tu connais que l'angoisse, peut-être que tu ne connais pas autre chose que la crainte. Mais vous voyez, au travers de ce que Jésus va dire à Jaïrus, il y a quand même une promesse pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours nous pouvons croire et comprendre cette parole. Tous les jours on peut se repasser dans notre cœur, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'est pas venu seulement d'une manière ponctuelle, Jésus n'a pas seulement envie d'agir dans notre vie à un moment, un instant T pour notre conversion. Peut-être que tu te demandes comment faire pour tenir, peut-être que tu te demandes, oui mais après c'est bien, demain, ce soir qu'est-ce qui va en être ? Laissez-moi vous dire que ces paroles-là, ce sont des paroles de mort. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne reste pas dans la crainte, parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Et si tu reçois la vie en toi, la mort n'a plus de place. La mort n'a pas d'effet sur ta vie lorsque tu connais la véritable vie. La lumière est là, les ténèbres n'ont plus de place dans ta vie. Si les ténèbres sont là, veulent régner, laissez-moi vous dire que la lumière est toujours supérieure aux ténèbres. La fille de Jaïrus, j'ai pas pu résister, je vous le dis. La fille de Jaïrus a été guérie, ressuscitée. Et je pense que la vie de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il y ait son jugement, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, la vie de Jésus-Christ se manifestera toujours, toujours. Parce que Jésus-Christ a accepté de venir et d'être crucifié sur cette croix pour que aujourd'hui, cet après-midi, en 2015, nous puissions dire « Mais je peux expérimenter le salut de mon âme parce que Jésus a tout payé, tout est réglé. Nous pouvons être tranquilles cet après-midi si nous avons confiance et foi dans ses paroles. » On prie le Seigneur un instant. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Merci. Merci parce que tu nous honores. Nous croyons que tu es là par ton Saint-Esprit. Et cet après-midi, tu vas encore toucher quelqu'un. Seigneur, c'est vrai que nous voulons te toucher d'une manière spirituelle. Nous voulons prier. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous délivrer, nous guérir. Mais Seigneur, nous voulons accepter aussi que toi, tu puisses toucher. Peut-être là où ça fait mal en nous, notre péché qui n'est pas réglé, nous voulons tout te laisser cet après-midi. Nous voulons te donner l'occasion de venir régner en nous, au travers de notre prière, de notre repentance. Oui, Seigneur, nous voulons te dire toute la vérité. Mon Dieu, je te prie, peut-être il y a dans ce lieu des personnes qui n'ont pas expérimenté cette paix avec toi, qu'ils puissent fléchir le genou devant toi cet après-midi et recevoir le pardon de leurs péchés. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci pour la croix, Jésus-Christ, pour ton sang qui a coulé. Seigneur, merci parce que, encore maintenant, tu veux nous bénir, et nous le croyons. Seigneur, conduis ces instants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.